www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Nous sommes le 19 mars 2019, à Unimail, depuis Unimail, où dans les conditions du direct, Aurélie et Léa, que je remercie d'être parmi nous, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui. Vous êtes toutes les deux étudiantes en médecine ici à Genève. Vous faites partie de l'AEMG, qui est l'Association des étudiantes et étudiants en médecine de Genève. Et à l'intérieur de cette association, si j'ai bien compris, vous vous occupez de la division, vous me démentirez si le nom est différent, de la division dons d'organes. Est-ce que c'est juste ? Qui commence, Léa ?
Tout à fait. Donc oui, on est une sous-branche de l'AEMG, comme tu l'as bien dit, donc l'association du don d'organes. Et on s'occupe de faire la promotion du don d'organes, principalement auprès des étudiants, parce qu'on a beaucoup plus accès à eux. Et après, auprès du grand public, quand l'occasion se présente.
D'accord. Est-ce qu'en quelques mots, Aurélie, voudrais-tu nous dire qu'est-ce que c'est que l'AEMG ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qui en fait partie ? Est-ce que c'est que des étudiants ou est-ce que c'est également des profs, des assistants ? Raconte-nous un peu.
Alors, c'est une association donc essentiellement constituée d'étudiants en médecine de Genève. Et ils ont plusieurs volets. Donc, il y a des volets associatifs, donc, dont l'association du don d'organes. Il y a également l'association pour le don de cellules souches ou le don du sang. Il y a aussi les palabres humanitaires qui ont des projets qui lient la santé et des projets humanitaires, en fait. Il y a aussi un projet de santé sexuelle. Et après, il y a tout un autre volet qui est plutôt événementiel, qui organise en fait des soirées pour avoir en fait des revenus, donc pour financer donc les activités associatives. Et ensuite, il y a aussi tout un volet de représentation des différentes volets et qui font en fait le lien entre les volets de médecine et le décanat, qui est donc l'administration de l'université de médecine.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que les relations à l'interne vont bon train, que tout se passe bien et que la dynamique va dans le même sens et qu'elle est positive ?
Oui, ça se passe bien. Après, nous, notre association, elle est assez divisée de l'AMG parce qu'au final, on a notre propre comité. Et en fait, on a une représentante de l'AMG qui fait en fait le lien entre les petites assos et l'AEMG.
D'accord. Alors, du coup, Léa, voudrais-tu préciser cette division du don d'organes ? Combien êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez comme activité ?
Oui, alors on est un nouveau comité depuis le début de l'année passée, puisque l'association était un peu laissée de côté. Donc on a décidé de reprendre les choses en main, on a fait un nouveau comité, on est une quinzaine. Et puis on a désigné donc, d'abord une responsable, et puis après on a plusieurs commissions différentes. Donc par exemple avec Aurélie, on est responsable intervenant, pour justement quand on décide d'organiser des événements comme les conférences. Et puis après, il y a d'autres, d'autres responsables de différentes commissions, plutôt logistique, plutôt...
Recruteurs, okay. Il y a aussi pour la communication.
D'accord.
Voilà. Et, Et après, on s'entraide entre nous. Et comme d'habitude et comme dans toute association, il y a des gens motivés, des gens beaucoup moins. Donc voilà.
Oui. Est-ce que, sachant le poids des études de médecine qui sont longues et qui occupent beaucoup l'esprit, vous arrivez quand même à mettre tout en disposition pour faire, en plus de vos études, de l'associatif ?
Je pense qu'on a de la chance, en fait, d'avoir accès, d'avoir la possibilité de participer à des projets comme ça, en fait. Parce que nous, on est sensibilisés à ça et donc je pense que ça nous fait plaisir de pouvoir participer à ça et essayer de sensibiliser les autres étudiants.
D'accord. Donc, un des rôles, c'est de sensibiliser, comme tu l'as dit, les autres étudiants. Y a-t-il une réelle plus-value dans des études de médecine de faire en plus partie d'une association comme ça en termes de rencontres et pourquoi pas même de rencontres, parce qu'effectivement, par la suite, pourquoi pas, peut-être qu'un cheminement médical pourrait rejoindre les aspirations de l'association.
Alors, on a quand même plusieurs possibilités au sein de la faculté de médecine, donc pour s'engager dans des associations. Après, c'est le cas un peu dans toutes les différentes facultés. Je pense que si on a envie de s'engager dans une association, on a la possibilité à Genève. Et il y a beaucoup d'associations diverses et variées. Après, il faut quand même avouer que ce n'est pas la norme de tout étudiant en médecine de s'engager dans une association. Ça reste plutôt l'exception parce que ça demande justement un engagement à côté des études. Et,
Absolument. Voilà. Y a-t-il des associations PAIRS, PAIRS, PAIRES que vous rencontrez, en particulier des, ou alors d'autres, voilà, d'autres partenaires? Je pense à Suisse Tremplant, à Suisse Transplant ou à d'autres types d'associations.
Alors, on a travaillé avec la Fondation Pro Transplant, qui est une fondation donc pour le don d'organes à Genève, notamment pour la récolte de signatures pour l'initiative fédérale pour le consentement présumé. Donc, on a fait des récoltes en partenariat avec eux. Sinon, avec Suisse Transplant, on n'a pas direct. En fait, ils nous fournissent le matériel déjà pour nos événements. Donc, on est aussi en relation avec eux. Et ben, comme on va vous en parler après, ben, certains participent à la conférence.
Très bien, très bien. Une dernière question, et puis ensuite on va arriver au cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est la prochaine conférence, hein, qui aura lieu donc le 27 mars. Ce sera où, ici à l'IMAI?
Oui, ici à l'IMAI.
D'accord, donc on reviendra dans quelques instants. Mais voilà, comme vous parliez de matériel, qu'en est-il de cette carte de donateur? Est-ce que vous les distribuez? Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, qui survient beaucoup plus facilement maintenant, ou est-ce que c'est encore quelque chose dont les gens, quand vous en parlez, que les gens ne connaissent pas?
Je pense pas forcément que les gens connaissent pas, mais souvent ils n'ont pas eu l'opportunité en fait dans leur vie d'en acquérir une. Et puis c'est vrai que les étudiants, souvent on est surprise parce que ils arrivent et puis ils sont tout contents d'avoir l'occasion d'en prendre une et d'en avoir enfin une, et puis ça fait toujours plaisir de pouvoir leur en procurer.
D'accord, d'accord. Comment est-ce qu'on se la procure alors, justement? On vous contacte, par exemple?
Par exemple, après, toute personne peut en commander, déjà, via le site Suisse Transplant. On peut tout simplement aller à l'hôpital, ils nous en distribuent gratuitement. À la pharmacie,
parfois,
pas encore partout, mais ils devraient de plus en plus en distribuer.
Mmh.
Et après, il faut savoir que depuis novembre dernier, Suisse Transplant a ouvert le registre national. Donc, via internet, on peut donc s'inscrire au registre national, et c'est une sorte d'équivalence aux cartes, donc c'est de nouveau que informatif, mais ça permet justement d'écrire quelque part de plus sûr que juste une carte qu'on peut perdre facilement, donc notre avis ou notre position par rapport au don d'organes.
Mmh. On ne va pas entrer plus en matière parce qu'on en avait parlé lors d'une autre précédente rencontre avec une autre de vos représentantes, hein,
oui.
Yisra, parce que c'est vrai que c'est également important de dire que voilà, la décision n'est jamais définitive, qu'on peut revenir dessus, tout ça, mais voilà, ça c'est disponible, on mettra le podcast, l'autre podcast à proximité de celui-ci pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Dernière chose, au sein de l'association, s'il fallait lancer un appel, de quoi auriez-vous besoin? Allons-y maintenant.
Alors moi je dirais on serait heureux d'accueillir des gens aussi d'autres facultés, parce que je pense que c'est une thématique qui peut concerner tout et chacun, et même si on n'est pas en médecine, on rentre pas forcément dans les détails médicaux. Notre but, c'est de faire de la promotion au large public, et pour ça donc on serait heureux d'accueillir des étudiants de n'importe quelle faculté. Le seul critère, c'est qu'il faut être étudiant et motivé.
Exactement. À chaque fois, on essaie de faire des projets le plus pluridisciplinaires possible. Donc, c'est sûr qu'avec d'autres personnes, d'autres facultés, ce serait peut-être plus facile de cibler.
Très bien. L'appel est lancé. Alors, allons au cœur du sujet. C'est la prochaine conférence. Donc, la conférence, vous avez commencé quand à organiser ces conférences?
Alors, à vrai dire, on a organisé notre première conférence l'année dernière, en avril dernier, sur la marchandisation du corps humain et des organes. Et ça a été quand même un beau succès pour une première conférence. Et donc, on a décidé, donc à trois, donc avec Yusra et Léa, de s'engager pour donc organiser une nouvelle conférence. Donc, on s'est vu. En fait, on a commencé en fin juin dernier à choisir un peu la direction que ça allait prendre. Et on avait donc plusieurs sujets qu'on voulait aborder. Et finalement, donc, on a décidé qu'une conférence allait être un peu beaucoup. Et donc, on a décidé de diviser ça en deux conférences. Donc une qui parlait plutôt de thématiques liées aux donneurs, et une deuxième plus de thématiques liées aux receveurs. Et c'est un peu parti de là. Et après, on s'est vu à la rentrée, et on a un peu commencé la réelle organisation depuis la rentrée en septembre.
Ouais.
Ok, ok. Et ça va a priori continuer?
Oui, on l'espère.
Okay.
Alors on attend toujours la relève. Il y a des deuxièmes années qui ont commencé à un petit peu s'intéresser à l'association. Après, ça dépend toujours de la relève, mais oui, on espère... tout notre cœur que ça va continuer comme ça.
Okay. Ces conférences sont-elles destinées à tout le monde, ou quand même un petit peu particulièrement aux étudiants et aux étudiants de la faculté?
Elles sont pour tout le monde, grand public. Maintenant, la publicité, on a plus accès de nouveau aux universités et un peu à l'hôpital. Mais on essaye de toucher le plus de gens possible.
Très bien, très bien. Alors, que va-t-il se passer? Alors, le titre, c'est « Et toi, ton rein, t'en ferais quoi ?» Et là, c'est donc le deuxième volet. Le premier volet, on l'a dit, on en a déjà parlé. Là, c'est le volet du côté du receveur.
Exactement.
Alors, on va peut-être tout de suite commencer par dire que parmi les organes que l'on transplante, le rein a cette particularité que c'est un organe que l'on peut transplanter vivant.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas pour les autres organes. Alors, il y aura donc une conférence qui sera suivie d'une table ronde. Voulez-vous peut-être en énoncerions-nous le programme?
Alors, avec plaisir. Donc, on va commencer donc par Patricia Schauenbourg, qui est en fait à Suisse Transplante. Elle s'occupe de la coordination du don d'organes au niveau suisse. Et elle va donc nous expliquer un petit peu les grandes questions, le cadre légal déjà autour du don d'organes en Suisse. Et elle va répondre aux questions de comment est-ce que se passe la distribution d'un organe, qu'est-ce que c'est donc ce principe de liste d'attente, comment est-ce qu'on choisit, qui va recevoir quel organe. Et qui donc un peu plus cet aspect de gestion au niveau suisse et aussi les interactions avec nos pays voisins.
D'accord. Petite parenthèse avant que l'on continue dans l'énoncé du programme. Faut-il que, puisqu'on en est cette fois-ci du côté du receveur, le receveur doit-il être préparé à recevoir cet organe? Je veux dire, est-ce qu'on doit faire quand même des... vérifier la compatibilité sanguine, des choses comme ça. Y a-t-il toute une préparation? Ou on le découvrira peut-être pendant la conférence?
Alors,
ça pourrait être une des questions qui surgirait.
Bien sûr, donc ce sera de toute façon précisé pendant la conférence, mais je peux déjà vous dire que il faut une grande compatibilité entre le receveur et le donneur. Et plus cette compatibilité est grande, plus il y a de chances que donc, la greffe marche. Et donc, c'est pour ça que tous les receveurs sont donc inscrits dans des listes d'attente. Et c'est tout un système qui est informatisé, dans lequel il y a donc toutes les informations du donneur, son âge, tous ses critères biologiques, et notamment aussi ses critères donc, de compatibilité. Et en fait, on va donc mettre toutes les informations du donneur dans ce logiciel qui va essayer de nous trouver le meilleur match.
Ouais.
Et après, l'ordre de priorité, c'est l'ordre donc, de liste d'attente.
D'accord. Est-il possible de, bypasser d'une certaine manière la liste d'attente avec un don d'un proche familial?
Alors,
où est-ce que le proche doit s'inscrire? Enfin, comment ça se passe de ce côté-là?
Alors, le don, c'est complètement anonyme.
D'accord.
Donc ça, c'est une des règles de loi, en fait, une des lois. Donc, on n'a pas le droit de savoir qui est notre donneur. Il y a un système en fait de lettres anonymes, donc on peut écrire une lettre anonyme donc à notre donneur ou à notre receveur, donc qui via Suisse Transplant donc va arriver à cette personne là, qui vont donc faire en sorte que cette lettre soit complètement anonyme, mais jamais on aura de nom.
Ok, mais si par exemple moi, si mon frère ou ma sœur se retrouve dans une situation, un accident, quelque chose d'urgent, et moi je me déclare apte à lui laisser un rein, est-ce que ça c'est que dans les films ou ça correspond à une forme de réalité?
Le don vivant c'est un petit peu différent.
C'est différent, d'accord.
Étant donné qu'on a une plus grande probabilité d'avoir une compatibilité chez un membre de la famille,
oui.
On va privilégier en fait, on va d'abord demander si quelqu'un dans la famille serait prêt à donner un rein. Donc ça c'est un petit peu différent, c'est pas pareil que le don cadavérique.
D'accord, merci beaucoup.
C'est le nom théorique.
mais merci Aurélie. Alors, continuons sur l'énoncé du programme de la conférence. Donc, on ne l'a pas encore dit. C'est mercredi 27 mars, on l'a dit. À 18h30 jusqu'à 20h, ce sera suivi d'un apéritif, sympa. Et c'est donc à une maille dans la salle MS 160, au premier étage. Sous-sol. Oui, MS 160, au sous-sol. Et donc, une maille, c'est boulevard du Pont d'Arve 40, le tram 15 s'arrête juste devant.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Léa.
Oui.
On y va, on continue avec le programme.
C'est parti. Alors la deuxième intervenante, c'est la docteure Karina Daya, qui est médecine adjointe au service de néphrologie et transplantation. Et elle va justement sûrement répondre aux questions que tu te posais par rapport aux aspects pratiques en fait, de la transplantation. Elle est très... Enfin, c'est vraiment la pro au niveau de transplantation justement de reins. Et donc, elle va parler des aspects pratiques et puis elle sera accompagnée d'une personne transplantée, normalement, qui va parler de son vécu, de comment il a vécu cette aventure. Et puis, elle va notamment aborder les problématiques du timing, justement, à ce moment-là.
Ouais. La néphrologie, vous voudriez vous préciser ? Qu'est-ce donc la néphrologie ? Est-ce que c'est tout ce qui touche aux reins et à d'autres choses ou...
Oui, la néphrologie, c'est la spécialité qui s'intéresse d'abord aux reins.
D'accord, ça veut dire qu'il y a des spécialistes pour quasiment chacun des organes ? Il y a des cardiologues, des néphrologues, des... etc.
Oui, pneumologues. Donc de nos jours, la médecine est très spécialisée. Donc,
voilà, endocrinologue pour le sang, oui. Quoi d'autre ?
Les hormones, ouais.
Ah oui, oui, absolument. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, voilà, la néphrologie, donc, c'est la branche de la médecine qui s'occupe spécifiquement du rein. À quoi ça ressemble un rein ? C'est une sorte d'haricot de soissons, hein ?
Alors, c'est dessiné sur notre affiche. Bon, celui-là est un petit peu bossu. Normalement, c'est un petit peu plus lisse, là.
Ouais.
Mais la graphiste n'était pas...
C'est à taille réelle, hein ?
Moi, j'ai eu la chance une fois de voir une greffe de rein et je trouvais que le rein ressemblait beaucoup à une cuisse de poulet.
Ah, une cuisse de poulet, d'accord. Donc, dans la taille, en tout
cas. Oui, dans la taille et dans la forme aussi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça.
Ok, ok. Allez, continuons avec le programme.
Alors voilà, et on va donc terminer la conférence avec le professeur Léo Buller, qui est donc chirurgien au service donc viscéral au GHUG. Et il est aussi donc le spécialiste de la xénotransplantation au niveau international. Donc lui, il va en fait nous parler des potentielles alternatives futures aux dons d'organes. Donc, notamment la xénotransplantation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire donc de la transplantation d'organes d'origine animale. Et pour l'instant, c'est donc pas encore pratiqué, mais c'est justement en cours d'étude. Donc, il va nous en parler plus profondément.
Alors, va-t-il en parler à large spectre, c'est-à-dire pour tous les organes, ou là, en l'occurrence, que concernant le rein ?
Alors, la conférence n'est pas uniquement sur le rein. On a choisi le rein comme... image d'accroche pour le titre et pour l'affiche, parce que c'est l'organe qui est le plus rapidement donc associé directement au don d'organes. Mmh. Mais c'est une conférence qui va donc aborder donc le don d'organes de tous les organes en fait. Et donc la xénotransplantation, ça va pas être spécifique au rein, mais ça va être pour donc les différents organes.
D'accord. Par exemple, les valves aortiques, ah oui, sont-elles déjà d'origine animale, puisqu'on peut en avoir soit, oui, des mécaniques, soit des...
D'origine animale, oui. Voilà. Mais ce n'est pas considéré comme des organes.
C'est ce que je pensais.
Donc,
ouais,
c'est... Oui, on fait déjà des transplantations de parties, en fait, de tissu animal, mais pas encore un organe entier animal.
Quels seraient les organes qui pourraient, à votre avis, arriver assez rapidement à trouver un équivalent chez les animaux ?
Alors, il me semble, si je n'ai pas de bêtises, que dans le futur, ça serait plutôt des transplantations cellulaires. Donc, notamment, par exemple, pour les îlots pancréatiques, pour les diabétiques, ou alors pour des cellules du foie. Donc, voilà, ça serait les alternatives.
Donc, ce ne serait pas un organe en tant que tel, mais les cellules qui composeraient...
Certains scientifiques l'espèrent, mais pour l'instant, ce n'est pas encore actuel.
On verra où cela nous mènera, bien sûr, mais voilà. Très bien, très bien. Quel est l'avis du transplanté ? Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Une fois que le transplant a été fait, opéré, eh bien, à quoi faut-il faire attention ? Est-ce que ces personnes sont sous médicaments à vie ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, des médicaments diminuent ? Faut-il avoir une hygiène de vie particulière ? Comment ça se passe ? En quelques mots, après, on invite les gens à se rendre à la conférence. Hein.
Voilà,
là, c'est pour allécher, pour appâter les personnes.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un traitement qui s'appelle les immunosuppresseurs, qui sont à prendre à vie une fois qu'on a reçu un organe, puisque justement, il y a des problèmes au niveau du système immunitaire. Et donc ça, c'est un traitement qui va être pris à vie, en tout cas. Après, sûrement qu'il y a des...
Ce traitement nous rend donc plus sensibles à toute infection. Donc, bien sûr qu'il faudra faire plus attention. Il faudra avoir un suivi à vie, en fait, après notre transplantation. Donc, ça reste quand même un geste qui est très invasif et qui demande un suivi à vie.
Voilà. Quels sont les risques éventuellement ? C'est plus de l'ordre infectieux, puisqu'effectivement le rein filtre le sang. J'imagine que c'est plutôt de ce côté-là où il va falloir être attentif par la suite.
Alors, il y a déjà, donc, pour toute greffe, le risque de rejet. Donc ça, il faudra déjà... C'est déjà un grand enjeu, parce que, comme on l'a expliqué avant, il y a toute une histoire de compatibilité. Et avoir une compatibilité parfaite est très très dur à avoir. Sauf si on a un pré-jumeau à disposition qui pourrait nous passer ces organes. C'est assez compliqué à avoir. Et donc, après, il y a donc tout ce risque donc, de surinfection donc, lié à l'immunosuppression. Mmh. Mais donc justement, je pense que le mieux pour répondre à ces questions, ce serait de venir à la conférence
tout à
pour
fait.
Écouter les intervenants.
Absolument. Ce que je vous propose, c'est qu'ensuite, on vous disiez quelques mots de la première partie de la conférence. Mais avant ça, une dernière question, parce que on les cite peu, et c'est un rôle majeur pour celles et ceux qui connaissent la table d'opération, les anesthésistes, dont on sait le rôle important, fondamental, c'est quelque part eux qui donnent le top départ hein, d'une opération. Alors, y a-t-il quelque chose de spécial concernant les transplantations ou le rein du côté des anesthésistes ou non, c'est une opération, comme tu l'as dit, très invasive. Donc voilà, c'est la grosse dose et puis évidemment une anesthésie complète. Et...
Alors j'imagine que chaque type d'opération en fait a ses spécificités au niveau de l'anesthésie. Maintenant, plus de détails, je ne saurais pas en fournir.
D'accord. Ouais. Voilà, je me posais la question comme ça parce que on en connaît certains un peu pince sans rire. Enfin voilà, ils ont tout le temps un humour un petit peu comme ça. Ok, alors revenons-en à la première partie de la conférence qui a eu lieu il y a pas longtemps. C'était la semaine passée.
Le 27 février, donc pile un mois avant.
Un mois avant. Comment ça s'est passé? Y a-t-il eu du monde? Des questions ont-elles surgi? Des réponses ont-elles pu être données? Pardon.
Alors oui, c'était très sympa, la salle était bien garnie, donc les intervenants ont chacun fait une belle présentation qui était claire et qui était aussi bien destinée au grand public, donc sans jargon médical, donc ça c'était vraiment sympa parce que c'était du coup accessible pour tout le monde. On a eu un public très diversifié en fait, on a eu des étudiants, on a eu aussi... Des adultes ou des personnes âgées qui avaient lu en fait l'annonce dans la tribune ou qui avaient vu les affiches à l'hôpital ou dans les unis quand ils se sont baladés. Donc on était assez étonnés de voir un public si diversifié, donc ça on était assez contente.
Donc mission remplie, on peut dire, enfin au bilan vous êtes contente.
Oui. Oui. Et la table ronde surtout, donc ça a vraiment bien marché. Les questions dès qu'on a lancé un petit peu dès que la première personne a osé lever la main, c'est bien parti et on a même dû couper la table ronde parce que il y avait trop de questions et qu'il fallait bien terminer un jour.
Donc on le rappelle, là, c'était du côté du donateur.
Oui.
Y a-t-il eu des questions un petit peu comme ça qui vous ont marqué je sais pas, du côté justement du donateur en disant mais qu'est-ce que je fais quand je donne, qu'est-ce que je risque, enfin je sais pas, des questions un petit peu comme ça.
Il y a toujours une question un peu délicate, c'est quand on est toujours étonné de savoir que même si nous on veut donner ces organes et qu'on a une carte de donneur, mais que notre famille par exemple s'oppose vraiment à ça sur le moment, et malheureusement, enfin la plupart du temps, on va quand même écouter la famille. Et donc c'est quelque chose qui heurte. Les gens, ils ont de la peine à comprendre ça. Donc il y a eu pas mal de débats autour de cette question.
Mm-hmm. On l'avait abordé déjà cette question-là lors de la première interview. Ça, c'est vraiment ce qui vous a un petit peu plus questionné vous-même. Mm-hmm. Puis on arrive doucement au terme de l'entretien, on va rappeler le lieu, la date, etc. Et puis ensuite vous en direz plus si vous le souhaitez. Le programme, je crois qu'on est arrivé au bout. Hein.
Oui.
On va peut-être d'ores et déjà redire où est-ce qu'on trouve ces informations, sur la page de l'AMG sur Facebook déjà.
Exactement, sur UNIGE, donc le portail UNIGE, sur les HUG, ProTransplant aussi. Mais le plus simple, c'est donc d'aller sur notre page Facebook donc de l'AMG, Association du don d'organes. Et donc, vous trouvez toutes les informations par rapport à la conférence.
Voilà. Voulez-vous rappeler les dates, toutes les petites choses importantes?
Donc, ça se passera le mercredi 27 mars à 18h30 en salle MS160 à Unimail, à étage moins 1. Et voilà.
Très bien, très bien. Boulevard du Bondard, on a dit le tram, notamment le tram
15
qui vient. C'est maintenant le moment de la colle. Comme ça, si vous ne pouvez pas y répondre, eh bien, je couperai facilement. D'accord. Dans le cadre d'une transplantation d'une personne porteuse du VIH, que ce soit des deux côtés, est-ce que c'est possible et comment c'est possible? Je veux dire ça parce que récemment, en rencontrant les camarades du groupe SIDA Genève, nous parlions de la charge virale et à un moment donné où elle n'est plus détectable, eh bien on considère que la relation sexuelle, par exemple, se fait sans danger. Qu'en est-il en cas de transplantation?
Alors, la première transplantation...
Mais vous pouvez répondre comme ça, du tac au tac dans le bleu. Bon, c'est pas Nicole, zut.
La première transplantation d'un patient atteint du VIH a eu lieu il y a quelques... 3 ans ?
Il y a quelques années,
au HUG. Mm-hmm. C'était entre un donneur, je crois, genevois, un receveur vaudois, ou le contraire peut-être. Et par contre, les deux avaient le VIH.
Ouais, mm-hmm. C'est ça la condition.
Donc, c'est ça la condition.
Donc, il y a quand même une condition qui reste, qui est celle-là. Donc, les deux... Donneurs et receveurs doivent être porteurs du VIH. Mmh.
Tout à fait, même si la charge virale est indétectable.
Mais c'était déjà une grande avancée de justement faire une transplantation à partir d'un donneur qui avait le sida. Mm-hmm.
Ouais. Enfin, en tout cas, ça n'est plus rédhibitoire et ça ne condamne donc pas. Enfin, ça laisse un espace d'espoir pour la personne receveuse.
Exactement.
Pour en terminer rapidement, y a-t-il des maladies du rein spécifiques que l'on recense comme ça, que vous pourriez énoncer, ou ça, c'est une colle?
C'est surtout les insuffisances rénales. Mm-hmm. Okay. Donc, où pendant de longues années, on est en hémodialyse. Donc, en gros, c'est une machine qui va aider notre rein à travailler parce que notre rein, il est trop fatigué pour travailler tout seul. Et donc, une des possibilités, ce serait donc de faire une greffe de rein, donc de mettre un autre rein qui serait sain pour remplacer notre rein malade.
Ça veut dire que la transplantation concerne soit les accidents, soit alors ce type de maladie.
Oui. Oui. Puis il y a plein de types de maladies qui peuvent mener à une insuffisance rénale.
Voilà, c'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce un symptôme ou une pathologie en soi? Ça peut être un peu les deux.
Ça peut être... C'est une pathologie en soi.
C'est une pathologie en soi, mais qui peut être consécutive
d'autres... Ouais.
D'accord. Ça peut être, par exemple, une complication.
Ça peut être une complication. Mmh.
D'accord.
Après, les accidents, c'est plus rarement une cause de transplantation, de greffe d'organes.
Ah, moi je pensais que c'était quasiment... Mais je ne vous ai pas posé la question. Quelle est la proportion, justement?
Un accident, c'est une possibilité pour donner nos organes.
Oui.
Mais il y a peu de chances qu'on va recevoir un organe.
D'accord. Donc, par exemple,
Il faut savoir que la greffe, ce n'est pas une situation d'urgence. Donc, c'est une situation où longtemps on a été en liste d'attente et finalement on reçoit un organe. Donc, ce n'est pas une situation comme un accident ou une urgence où on va recevoir un organe. Comme ça. Ça demande toute une préparation et on ne peut pas faire cette préparation dans l'urgence, en fait.
Oui, tout à fait. C'est moi qui étais un petit peu... Existe-t-il des personnes en tout à fait bonne santé qui se rendent ou qui contactent Suisse Transplant, par exemple, pour dire « je pourrais être donateur potentiel de mon rein, de mon vivant ?»
Oui, ça existe, du don altruiste.
Ok.
Maintenant, je pense que c'est quelque chose d'assez assez rare. Et puis, il y a tout un suivi aussi psychologique pour essayer de comprendre la raison pour laquelle la personne veut faire ça. Mais en tout cas, c'est possible.
Ok. L'opération en soi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie invasive. On peut dire ça. C'est quand même une opération qui s'est faite souvent, donc qui comporte certes des risques, mais des risques mesurables. Ou bien c'est une opération...
Ça dépend déjà de quel organe on greffe. Mmh. Et de la situation donc, du donneur et du receveur. Parce que ce qu'on n'a pas oublié, c'est qu'au contraire d'une autre, autre opération, dans ce cas-là, on a deux corps. Et donc, il faut déjà regarder donc, l'état des deux corps pour planifier en fait, l'opération et la coordination entre ces deux opérations. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, ça dépend du cas, c'est cas par cas.
Absolument. Très bien, très bien. Y aurait-il une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez souhaité répondre? Ou est-ce qu'on a été relativement exhaustif?
Je pense qu'on a tout dit.
Ouais.
C'est vrai? Très bien. Aurélie et Léa.
À part qu'on serait heureux de vous voir à notre conférence et qu'avec plaisir, on répondra à d'autres questions.
Oui.
Si on souhaite justement vous contacter pour, que sais-je, peut-être vous proposer de rééditer ce type d'exercice, comment est-ce qu'on peut le faire et est-ce que vous seriez, pourquoi pas, partante pour ce type de projet?
Le plus simple, c'est d'aller donc sur notre page Facebook, donc AEMG, don d'organes.
Mm-hmm.
Et vous pourrez nous contacter très facilement.
Très bien.
Et donc, je pense qu'on sera très ouvert à d'autres propositions de projets.
Très bien. Léa et Aurélie, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous. Merci de nous avoir reçus.
Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio. Le murmure des mots. Le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.